Bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA 107.5. Alors aujourd'hui, c'est la 40e émission, le 40e épisode de notre émission d'astronomie. Exceptionnellement, c'est moi Fred aujourd'hui qui vais assurer son déroulement, puisque mes collègues habituels, à savoir Pierrick, Rémi et Axel, sont absents. Voilà, donc ça ne m'a pas empêché de vous préparer un petit sommaire. Alors, on va commencer avec, comme d'habitude, le ciel ce soir. Hein, regardez un petit peu ce qu'on peut observer en ce moment. Ensuite, je ferai un tout petit point d'actu, juste sur une petite image qui m'a frappé. Et puis ensuite, je vais faire une revue d'un petit livre de physique que j'ai lu qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ?» Voilà, écrit par le physicien Carlo Rovelli. Et je vous ferai part un peu de deux, trois... essayer d'un peu de vous dire de quoi il retourne dans ce livre qui pose quand même une sacrée question. Voilà. Alors, on va commencer par le ciel ce soir. Donc, en ce moment, dès que... Alors, c'est assez pluvieux, hein, nuageux, mais quand on a la chance d'avoir un ciel un petit peu dégagé, au moment où le soleil se couche, on a vraiment le triangle d'été qui est là, au sommet, au zénith. Donc, et qui va assez rapidement décroître vers l'ouest pour se coucher. Et ensuite, on a quand même de belles constellations dans ce ciel de début d'automne. Ou de fin d'été comme on veut, et avec en particulier Pégase et puis le Taureau, et on a la chance d'avoir aussi en fait trois belles planètes à observer, puisqu'on a Jupiter, Saturne et également Mars. Donc Jupiter et Saturne, alors si vous avez un horizon un peu dégagé vers le sud en ce moment, vous pouvez les voir dès le coucher du soleil, sud et est, je veux dire. Saturne dans le Capricorne et Jupiter vraiment comme un phare, hein, vraiment très 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 brillante. Et ensuite vient dans le Taureau Mars. Alors... comme objet Messier, hein, je rappelle le catalogue Messier, c'est un catalogue qui avait été répertorié par l'astronome Charles Messier, il y a de cela largement plus d'un siècle, et qui regroupait les 100 objets les plus brillants du ciel. Là, je voulais vous parler d'M15, dans la constellation de Pégase, le grand carré de Pégase qu'on a eu l'occasion de mentionner à maintes reprises dans cette émission. En bas à droite du carré, vous avez, on va dire, la jambe de... moi, j'imagine que c'est sa jambe, en tout cas, à ce grand cheval ailé. Et sa jambe qui fait un coude et qui remonte. Et en fait, dans le prolongement de ce coude, vous allez trouver M15, qui est un petit amas globulaire de magnitude 6. Plus petit que M13, hein, mais très très beau. Une autre configuration. Voilà, il est vraiment facile à pointer puisqu'il est visible aux chercheurs. Donc à partir de là, il n'y a vraiment pas de difficulté, même avec un petit instrument pour essayer de le résoudre. Très arachnéen, voilà. Voilà pour le ciel. On vous encourage toujours dans cette émission à lever les yeux, hein, vers le ciel étoilé. Il n'y a pas que les télescopes ni les jumelles, il n'y a pas forcément besoin de connaître grand chose, mais juste observer un peu ces symboles qui sont dessinés dans le ciel et observer comment comment il tourne autour de nous au cours de l'année. Alors je vais passer à une petite partie rapide, partie actualité. C'est juste une image que j'ai, sur laquelle je suis tombé dans une des revues d'astronomie là, de ces derniers mois. Donc c'est un astronome amateur en fait qui, avec une caméra CCD, vise une étoile. Et en fait, donc c'est une image qui ressort en violet, très contrastée, l'étoile extrêmement brillante au centre, très large, et autour de petites étoiles. Et en fait, donc on est quand même sur un champ très réduit, hein. On est sur une toute petite portion du ciel, c'est-à-dire vraiment le voisinage immédiat d'une étoile. Et en fait, l'image est striée en diagonale, sur toute la longueur de l'image, sur à peu près la moitié de la hauteur. Et ça, ce sont... Alors, ce n'est pas le négatif qui a été... il n'y a plus de négatif maintenant, mais qui a été rayé par terre. Ce n'est pas non plus, un défaut du détecteur. Ce sont des satellites, les satellites Starlink. Donc, les petits trains de satellites là, qui passent et qui continuent à se déployer. Donc, ces fameux satellites 5G. Il y en a plusieurs milliers, probablement dans un futur assez proche, plusieurs dizaines de milliers. Qui orbitent autour de la Terre pour prétendument résoudre la question d'une couverture 5G sur toute la planète. Voilà. Et ben en fait on les voit, ces petits satellites, ils laissent des traînées, ils polluent le ciel. Alors il y en a encore que très peu qui sont réellement, on va dire, éblouissants, c'est-à-dire qui atteignent vraiment le niveau de luminosité d'une étoile. Mais il y en a déjà quelques-uns. Et il est clair qu'avec les dizaines de milliers de lancements qui sont prévus dans les années à venir, il y en aura de plus en plus. Et donc, si on fait l'extrapolation dans 100 ans, eh bien, on peut se demander ce qui nous restera à observer. Est-ce qu'on pourra encore distinguer les constellations, c'est-à-dire les étoiles, les distinguer du ciel artificiel, des satellites qui nous entourent, qui pourrait brouiller à terme même notre vision des constellations. Bon, l'avenir le dira. On va faire une petite pause musicale. Cette semaine, on va écouter un morceau des Abyssinians qui s'appelle Sata Masagana. A tout à l'heure.
Fight for your right.
Voilà, c'était les Abyssinians avec leur titre Sata Masagana. Bon retour dans l'étoile polaire sur Erdiwa, l'émission d'astronomie amateur. Comme chaque semaine, on parle du ciel et de son observation. Alors, ça me permet de vous rappeler que vous pouvez retrouver les enregistrements de toutes nos émissions sur le podcast de l'émission L'Étoile Polaire. Donc pour trouver ça, vous allez sur le site de RDWA, rdwa.fr, et là vous allez dans les émissions, puis les émissions thématiques, et là vous trouvez L'Étoile Polaire au milieu de beaucoup d'autres émissions bien intéressantes à écouter au passage. Voilà. Alors, en tout cas pour ce 40e épisode de notre émission, je vous ai préparé une espèce de revue de lecture en fait d'un livre qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ?». Donc ce livre, il est écrit par un physicien qui s'appelle Carlo Rovelli, physicien italien, physicien actuel hein, qui même s'il commence à être plutôt en fin de carrière, est quand même bien actif encore dans la communauté des chercheurs. Et donc a publié ce livre à la fois pour présenter un peu son parcours, dont je dirais quand même deux mots parce que c'est intéressant, et surtout son travail, et essayer de vulgariser en fait sa recherche. Alors lui, il travaille en physique théorique vraiment très très poussée. Hein, quand il dit « et si le temps n'existait pas ?», en fait, il travaille réellement sur ce type de concept, mais du côté de la science. Alors voilà, de quoi parle ce livre, et j'avais envie de vous en dire deux mots, de vous en lire quelques courts passages, parce que je trouve que ça ouvre à quand même pas mal de réflexions sur la façon dont on peut percevoir et appréhender notre monde. Alors, j'ai dit Carlo Rovelli, physicien italien, rapidement son parcours. En fait, ben, c'est pas un long fleuve tranquille, lui... Il fait des études de physique, il va au lycée, puis ensuite il essaye de... il va à la fac, il essaye d'obtenir une thèse, mais pas tout le monde a une bourse de thèse. Donc après quand même de longues études, et après déjà le choix de sa part de s'engager dans la physique théorique, donc, qui est quand même un domaine de recherche entre guillemets dit d'excellence, parce qu'il y a une nécessité, mais en particulier d'avoir une énorme maîtrise des mathématiques, une capacité quand même intellectuelle, qui n'est pas si courante quoi. Donc il s'oriente vers ce domaine-là, domaine qui au demeurant aussi est quand même peu sujet à des applications, donc peu financé, hein, c'est toujours pareil. Et donc il y a quand même des moments où il raconte il doit plus ou moins essayer de faire autre chose pour faire vivre lui et sa famille, et sinon dans sa cave, dans le temps qui lui reste, il rédige sa thèse. Ça n'empêche pas de rencontrer des universitaires, d'autres chercheurs de renom, même au niveau international, et petit à petit, en fait, en échangeant ses idées, en discutant, de se faire remarquer, et puis de trouver des postes, et peu à peu de faire sa carrière. Au-delà de ça, de développer vraiment sa recherche. Donc lui, il travaille, alors c'est là déjà que ça commence, sur les théories, on va dire, de grande unification. Alors, j'ai déjà eu l'occasion dans des émissions précédentes de mentionner un petit peu ces questionnements de la recherche actuelle en physique fondamentale. On a déjà parlé donc des forces dans la physique, hein, c'est-à-dire des interactions qui régissent le monde. Donc la physique en compte 4, 2 qui sont l'interaction faible et l'interaction forte, qui ont vraiment lieu au niveau des constituants les plus intimes de la matière, dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Ensuite, il y a l'interaction électromagnétique et bien sûr la gravitation. Et dans l'interaction électromagnétique, il y a, l'interaction faible et forte, il y a évidemment la mécanique quantique. Donc on a deux grandes théories qui englobent un peu l'ensemble de ce qu'on peut connaître et qui datent du début du XXe siècle. C'est la mécanique quantique, J'ai déjà fait une série d'émissions, donc c'est aussi pour ça que je mentionne le podcast. Si ça vous intéresse, il y a une série de 4 ou 5 émissions là, que j'avais consacrées à la physique quantique et à sa naissance et à ses développements. Voilà. Et de l'autre côté, donc, la gravitation. La gravitation, là, on en a déjà parlé aussi plus en détail avec Einstein et la grande théorie de la relativité générale. Donc voilà ce que les physiciens qui s'intéressent aux théories fondamentales de la physique ont à leur disposition pour expliquer l'ensemble des observations du monde matériel. Voilà. La gravitation et la mécanique quantique. Or, ces deux théories ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que les équations ne s'écrivent pas du tout de la même façon, les choses ne sont pas du tout envisagées de la même façon. Et d'ailleurs, elles ne s'intéressent pas aux mêmes échelles, puisque je rappelle, la mécanique quantique décrit l'infiniment petit, alors que la gravitation s'intéresse aux masses qui s'attirent les unes les autres, et donc évidemment on est plutôt dans le domaine de l'astrophysique, et donc au-delà de ça, même de la cosmologie. Hein, quand on va au bout de l'astrophysique, dans ces questions de eh bien, d'où vient l'univers, etc., on tombe sur les théories du Big Bang, que là aussi on a déjà eu l'occasion de développer dans cette émission. Allez sur le podcast. Et voilà. Donc, Carlo Rovelli, lui, il essaye de faire en sorte que ces deux théories puissent être unifiées. Évidemment, il n'est pas le seul. Ça fait déjà bien, enfin, depuis la guerre, hein, que, depuis les années 50, que les chercheurs se penchent là-dessus. Le problème, c'est que pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Évidemment, il y a des pistes. Et en tout cas, il y a des points communs dans toutes les pistes, c'est qu'à chaque fois, on est obligé d'envisager des univers qui ont plus de 3, 4 dimensions, même on était sur des modèles à 9, 11, 13 dimensions, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ils veulent arriver à mathématiquement modéliser tout ça et faire une équation unique pour ces deux interactions fondamentales de l'univers, ils ont besoin d'en passer par là mathématiquement. Bon, donc là déjà ça commence. Évidemment, dans tout ça, il y a des théories qui sont un petit peu dégagées, qui étaient à une époque donc les M-théories, théorie aussi des supercordes ou théorie des anneaux. Et c'est là-dessus que travaille Carlo Rovelli. Alors en fait, pour la faire courte, les théories des cordes ou des anneaux, qui sont différentes mais qui ont quand même pas mal de points communs, c'est l'idée que justement toutes ces dimensions-là sont en fait repliées sur elles-mêmes dans des petits anneaux, et c'est pour ça qu'ils ont des dimensions complètement microscopiques, et c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir, mais il faut en tenir compte si on veut pouvoir faire des prédictions valables sur la réalité. Bon, bref. Voilà en tout cas la thématique, et je m'arrêterai là sur les explications. Donc Carlo Rovelli, voilà, une fois qu'il a présenté un peu son parcours, il y a des éléments dans son livre, il y a aussi des éléments un peu biographiques, personnels, bon ça je vais passer. Je vais vous livrer quelques-unes de ses réflexions sur le temps. D'abord il pose en fait la question de la mesure du temps. Il dit qu'on mesure le temps, qu'est-ce qu'on mesure ? Et il dit en réalité on mesure jamais le temps lui-même, on mesure toujours un phénomène. On mesure un changement dans un système. Par exemple, on utilise un pendule pour mesurer le temps. C'est parmi les plus vieux systèmes. Je rappelle hein, le battoir des vieilles pendules, mais même dans les montres, les choses. Bon, pendant très longtemps, on a utilisé les oscillations d'un pendule. Bon, un pendule, c'est quoi ? C'est une masse au bout d'un fil hein, qui oscille. On a utilisé les oscillations d'un pendule comme base pour mesurer le temps. Au passage, on ne fait pas forcément extrêmement différemment maintenant quand on utilise du quartz. On sait que le quartz soumis à un petit signal électrique va vibrer à une certaine fréquence qui est très précise. Vibrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va, on peut dire, quelque part se dilater, puis se recontracter, puis se dilater, puis se recontracter, de façon infime, mais par exemple 400 fois, 5000 fois, je ne sais pas, par seconde. Toujours la même façon. Donc, lui, ce qu'il dit, là, Carlo Rovelli, c'est que qu'est-ce qu'on mesure, en fait ? On mesure un phénomène, une oscillation, un phénomène périodique. Donc, c'est-à-dire... Et ensuite, on dit ça, c'est la base du temps, et ensuite, on mesure le temps. Bon. Ça peut sembler un petit peu abstrait ou un peu décalé de la réalité, mais on a tendance à des conséquences qui sont... qui sont importantes. Parce qu'il dit, au fait, ce qu'on compte, c'est quoi ? Donc il pose déjà la question de cette réalité du temps. Et il dit, en réalité, on a d'abord calculé comment les variables changent l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire, en fait, ce que je mesure, c'est un pendule, par exemple, qui fait une oscillation. Il est d'un côté de la pendule, il change d'état, il va de l'autre côté, il revient. Mais ça, en fait, ce mouvement, c'est quoi ? Déjà, le mouvement du pendule, il est par rapport à la pendule. Donc déjà, en fait, indépendamment du temps, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un phénomène physique qui est que ce pendule change de position par rapport à la pendule, par rapport à la pièce, par rapport à la Terre. Donc, lui, ce qu'il dit Revelli, en d'autres termes, l'existence d'une variable temps universelle est un postulat plutôt que le résultat d'une observation. Parce que ce n'est pas le temps lui-même que j'observe. Donc, je dis que là-dedans, il y a une notion d'écoulement dans le temps et d'évolution des systèmes, donc j'introduis une idée de temps. Mais lui, il dit qu'au niveau fondamental, il n'y a pas de temps. Et c'est vrai qu'en mécanique quantique, il y a des façons de l'écrire, dont celle que lui a développée, enfin, utilise, où le temps n'est pas une variable des équations pour définir l'évolution du système. Il dit, pour tout objet, le temps est la façon dont il change par rapport à d'autres objets. Pour reprendre l'exemple du pendule, qui bouge par rapport à la pendule. Donc la nouvelle image du monde, voilà ce que dit encore Rovelli, la nouvelle image du monde qui est en train de se mettre en place dans la physique de base est celle d'un monde sans espace et sans temps. L'espace et le temps usuels vont tout simplement disparaître du cadre de la physique de base, de la même façon que la notion de centre de l'univers a disparu de l'image scientifique du monde. À leur place, il reste des relations entre les objets. Donc là déjà, moi je trouve ça relativement puissant comme langage. Un monde sans espace et sans temps, à leur place, il reste des relations entre les objets. Donc, voilà le genre de considération. Il va même plus loin, puisqu'il parle en fait de ces équations, et là vraiment de façon très précise de son travail à lui. Il dit « La notion d'absence de temps qui est au centre de nos efforts pour écrire une théorie quantique de la gravitation. » Donc au centre de ses efforts, c'est pas juste une petite réflexion comme ça sur le côté. Alors, on a beau être un peu fasciné par ces affirmations, enfin par ouais. Il y a quand même une sorte de, il y a un moment où on dit bon le temps, c'est, on a quand même la sensation que c'est quand même quelque chose. Ne serait-ce que nos histoires de voyage dans le temps, on observe bien que qu'on vieillit, que voilà que le temps passe d'une façon ou d'une autre. Alors on vieillit, ça veut dire quoi? Qu'on change. Hein, on l'a dit, hein, c'est le changement d'un système par rapport à son environnement. Voilà ce qu'on appelle le temps. Et lui, en fait, il arrive au bout d'un moment à dire que le temps n'apparaît seulement dans le contexte statistique de la thermodynamique. Alors, ça mérite une petite explication. La thermodynamique, pour faire rapide, c'est la science, on va dire, des échanges d'énergie, de chaleur, de mouvement, et plutôt microscopique. Donc c'est avec ça qu'on a étudié les gaz, par exemple, la thermodynamique, la pression, le volume, les températures, voilà. Et donc, effectivement, dans ce genre de système, on a énormément de molécules, hein, puisqu'on sait qu'il y a des milliards de molécules dans le moindre centimètre cube d'air. Donc voilà, tout de suite l'outil statistique a été utilisé. Là c'est des mathématiques, c'est-à-dire pour pouvoir écrire des équations qui englobent un grand nombre de molécules. Et en fait pour faire ça, on va décrire le système à un niveau un peu macroscopique, c'est-à-dire son comportement global. Et c'est ça la statistique thermodynamique. Donc il continue Rovelli, une autre façon de le dire est que le temps est un effet de notre ignorance des détails du monde. Si nous connaissions parfaitement tous les détails du monde au niveau de chaque atome, nous n'aurions pas la sensation de l'écoulement du temps. Mais nous ne percevons que des moyennes et des résultantes, donc il ressort globalement une notion nouvelle, le temps. Voilà. Donc, on est quand même sur quelque chose de relativement intrigant, je trouve, et qui peut laisser libre cours à pas mal de pensées, de considérations. Pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre quand même certaines de ces phrases-là de ce livre et toute une littérature, qu'elle soit une partie de la spiritualité ou même chamanique ou voilà, où quand même on retrouve des thématiques extrêmement proches. Là, dans le cas de Carlo Rovelli, on est vraiment dans de la science académique dure, dure au sens recherche fondamentale. On est quand même dans un domaine extrêmement pointu, extrêmement particulier, une communauté réduite de chercheurs qui en sont quand même à étudier ce type de problématiques. Donc une minorité dans ce qu'est la science actuellement aujourd'hui. Et en particulier éloigné de la technologie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous retrouve la semaine prochaine avec le reste de l'équipe. Bonne semaine.